Salammbô de Gustave Flaubert. Ceci est une lecture de Christophe pour audiocité.net. Chapitre 7. Amilcar Barca. L'annonciateur des lunes qui veillait toutes les nuits au haut du temple d'Eshmoun pour signaler avec sa trompette les agitations de l'astre, aperçut un matin, du côté de l'Occident, quelque chose de semblable à un oiseau frôlant de ses longues ailes la surface de la mer. C'était un navire à trois rangs de rames. Il y avait à la proue un cheval sculpté. Le soleil se levait. L'annonciateur des lunes mit sa main devant les yeux, puis saisissant à plein bras son clairon, il poussa sur Carthage un grand cri d'airain. De toutes les maisons des gens sortirent. On ne voulait pas en croire les paroles. On se disputait. Le môle était couvert de peuple. Enfin, on reconnut la trirème d'Amilcar. Elle s'avançait d'une façon orgueilleuse et farouche, l'antenne toute droite, la voile bombée dans la longueur du mât, et fendant l'écume autour d'elle. Ses gigantesques avirons battaient l'eau en cadence. De temps à autre, l'extrémité de sa quille, faite comme un soc de charrue, apparaissait, et sous l'éperon qui terminait sa proue, le cheval à tête d'ivoire, en dressant ses deux pieds, semblait courir sur les plaines de la mer. Autour du promontoire, comme le vent avait cessé, la voile tomba, et l'on aperçut auprès du pilote un homme debout, tête nue. C'était lui, le suffète Amilcar. Il portait autour de ses flancs des lames de fer qui reluisaient. Un manteau rouge, s'attachant à ses épaules, laissait voir ses bras. Deux perles très longues pendaient à ses oreilles, et il baissait sur sa poitrine sa barbe noire, touffue. Cependant, la galère ballottée au milieu des rochers côtoyait le môle, et la foule la suivait sur les dalles en criant « Salut ! Bénédiction ! Hey de Camon ! Ah, délivre-nous ! C'est la faute des riches ! Ils veulent te faire mourir ! Prends garde à toi, Barca !» Il ne répondait pas, comme si la clameur des océans et des batailles l'eût complètement assourdi. Mais quand il fut sous l'escalier qui descendait de l'acropole, Amilcar releva la tête et, les bras croisés, il regarda le temple d'Eshmoun. Sa vue monta plus haut encore, dans le grand ciel pur. D'une voix âpre, il cria un ordre à ses matelots. La trirème bondit, elle érafla l'idole établie à l'angle du môle pour arrêter les tempêtes, et dans le port marchand, plein d'immondices, d'éclats de bois et d'écorces de fruits, elle refoulait, éventrait les autres navires amarrés à des pieux et finissant par des mâchoires de crocodile. Le peuple accourait, quelques-uns se jetèrent à la nage. Déjà elle se trouvait au fond, devant la porte hérissée de clous. La porte se leva et la trirème disparut sous la voûte profonde. Le port militaire était complètement séparé de la ville. Quand des ambassadeurs arrivaient, il leur fallait passer entre deux murailles, d'un couloir qui débouchait à gauche devant le temple de Hamoun. Cette grande place d'eau, ronde comme une coupe, avait une bordure de quais où étaient bâties des loges, abritant les navires. En avant de chacune d'elles montaient deux colonnes, portant à leur chapiteau des cornes d'amont, ce qui formait une continuité des portiques tout autour du bassin. Au milieu, dans une île, s'élevait une maison pour le suffète de la mer. L'eau était si limpide que l'on apercevait le fond pavé de cailloux blancs. Le bruit des rues n'arrivait pas jusque-là, et Amilcar, en passant, reconnaissait les trirèmes qu'il avait autrefois commandées. Il n'en restait plus qu'une vingtaine, peut-être, à l'abri, par terre, penchée sur le flanc ou droite sur la quille, avec des poupes très hautes et des proues bombées, couvertes de dorures et de symboles mystiques. Les chimères avaient perdu leurs ailes, les dieux patakès leurs bras, les taureaux leurs cornes d'argent, et toutes à moitié dépeintes, inertes, pourries, mais pleines d'histoire, et exhalant encore la senteur des voyages, comme des soldats mutilés qui revoient leur maître, elles semblaient lui dire « C'est nous, c'est nous !» Et toi aussi tu es vaincu. Nul, hormis le suffète de la mer, ne pouvait entrer dans la maison amirale. Tant qu'on n'avait pas la preuve de sa mort, on le considérait comme existant toujours. Les anciens évitaient par là un maître de plus, et ils n'avaient pas manqué, pour Hamilcar, d'obéir à la coutume. Le suffète s'avança dans les appartements déserts. À chaque pas, il retrouvait des armures, des meubles, des objets connus, qui l'étonnaient cependant et, même sous le vestibule, il y avait encore, dans une cassolette, la cendre des parfums allumés au départ pour conjurer Melkart. Ce n'était pas ainsi qu'il espérait revenir. Tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait vu se déroula dans sa mémoire. Les assauts, les incendies, les légions, les tempêtes, Drépanum, Syracuse, Lilibé, le mont Etna, le plateau d'Eryx, 5 ans de bataille, jusqu'au jour funeste où, déposant les armes, il avait perdu la Sicile. Puis il revoyait des bois de citronniers, des pasteurs avec des chèvres sur des montagnes grises, et son cœur bondissait à l'imagination d'une autre Carthage établie là-bas. Ses projets, ses souvenirs bourdonnaient dans sa tête, encore étourdis par le tangage du vaisseau. Une angoisse l'accablait, et devenu faible, tout à coup, il sentit le besoin de se rapprocher des dieux. Alors il monta au dernier étage de sa maison, puis ayant retiré d'une coquille d'or suspendue à son bras une spatule garnie de clous, il ouvrit une petite chambre ovale. De minces rondelles noires, encastrées dans la muraille et transparentes comme du verre, l'éclairaient doucement. Entre les rangs de ces disques égaux, des trous étaient creusés pareils à ceux des urnes dans les columbariums. Ils contenaient chacun une pierre ronde, obscure, et qui paraissait très lourde. Les gens d'un esprit supérieur, seuls, honoraient ces abadirs tombés de la lune. Par leur chute, ils signifiaient les astres, le ciel, le feu. Par leur couleur, la nuit ténébreuse. Et par leur densité, la cohésion des choses terrestres. Une atmosphère étouffante emplissait ce lieu mystique. Du sable marin que le vent avait poussé sans doute à travers la porte, blanchissait un peu les pierres rondes posées dans les niches. Hamilcar, du bout de son doigt, les compta les unes après les autres. Puis il se cacha le visage sous un voile de couleur safran et, tombant à genoux, il s'étendit par terre, les deux bras allongés. Le jour extérieur frappait contre les feuilles de laitier noir. Des arborescences, des monticules, des tourbillons, de vagues animaux se dessinaient dans leur épaisseur diaphane. Et la lumière arrivait, effrayante et pacifique cependant, comme elle doit être par derrière le soleil, dans les mornes espaces des créations futures. Il s'efforçait à bannir de sa pensée toutes les formes, tous les symboles et les appellations des dieux, afin de mieux saisir l'esprit immuable que les apparences dérobaient. Quelque chose des vitalités planétaires le pénétrait, tandis qu'il sentait pour la mort et pour tous les hasards un dédain plus savant et plus intime. Quand il se releva, il était plein d'une intrépidité sereine, invulnérable à la miséricorde, à la crainte, et comme sa poitrine étouffait, il alla sur le sommet de la tour qui dominait Carthage. La ville descendait en se creusant par une courbe longue, avec ses coupoles, ses temples, ses toits d'or, ses maisons, ses touffes de palmiers, ça et là, ses boules de verre d'où jaillissaient des feux, et les remparts faisaient comme la gigantesque bordure de cette corne d'abondance qui s'épanchait vers lui. Il apercevait en bas les ports, les places, l'intérieur des cours, le dessin des rues, les hommes tout petits presque à ras des dalles. Assianon n'était pas arrivé trop tard, le matin des îles Égates. Ses yeux plongèrent dans l'extrême horizon, et il tendit du côté de Rome ses deux bras frémissants. La multitude occupait les degrés de l'acropole. Sur la place de Camon, on se poussait pour voir le suffète sortir. Les terrasses, peu à peu, se chargeaient de monde. Quelques-uns le reconnurent, on le saluait, il se retira, afin d'irriter mieux l'impatience du peuple. Hamilcar trouva en bas, dans la salle, les hommes les plus importants de son parti. Istaton, Subeldia, Ictamon, Yeoubas, et d'autres. Ils lui racontèrent tout ce qui s'était passé depuis la conclusion de la paix. L'avarice des anciens, le départ des soldats, leur retour, leurs exigences, la capture de Giscon, le vol du Zaïmph, Utique, secouru, puis abandonné. Mais aucun n'osa lui dire les événements qui le concernaient. Enfin, on se sépara pour se revoir pendant la nuit à l'assemblée des anciens, dans le temple de Moloch. Il venait de sortir quand un tumulte s'éleva en dehors à la porte. Malgré les serviteurs, quelqu'un voulait entrer, et comme le tapage redoublait, Hamilcar commanda d'introduire l'inconnu. On vit apparaître une vieille négresse, cassée, ridée, tremblante, l'air stupide, et enveloppée jusqu'aux talons dans de larges voiles bleues. Elle s'avança en face du suffète. Ils se regardèrent l'un et l'autre quelque temps. Tout à coup, Hamilcar tressaillit. Sur un geste de sa main, les esclaves s'en allèrent. Alors, lui faisant signe de marcher avec précaution, il l'entraîna par le bras dans une chambre lointaine. La négresse se jeta par terre, à ses pieds pour les baiser. Il la releva brutalement. « Où l'as-tu laissé, Idibal ?»« Là-bas, maître. » Et en se débarrassant de ses voiles, avec sa manche, elle se frotta la figure. La couleur noire, le tremblement sénile, la taille courbée, tout disparut. C'était un robuste vieillard dont la peau semblait tannée par le sable, le vent et la mer. Une houppe de cheveux blancs se levait sur son crâne, comme les grettes d'un oiseau, et d'un coup d'œil ironique, il montrait par terre le déguisement tombé. « Tu as bien fait, Idibal, c'est bien. » Puis, comme le perçant de son regard aigu, aucun encore ne se doute. Le vieillard lui jura par les cabires que le mystère était gardé. Ils ne quittaient pas leur cabane à 3 jours d'Adrumète, rivage peuplé de tortues avec des palmiers sur la dune. Et selon ton ordre, ô maître, je lui apprends à lancer des javelots et à conduire des attelages. Il est fort, n'est-ce pas? Oui, maître, et intrépide aussi. Il n'a peur ni des serpents, ni du tonnerre, ni des fantômes. Il court pieds nus comme un pâtre sur le bord des précipices. Parle, parle! Il invente des pièges pour les bêtes farouches. L'autre lune, croirais-tu, il a surpris un aigle. Il le traînait, et le sang de l'oiseau et le sang de l'enfant s'éparpillaient dans les airs en larges gouttes, telles que des roses emportées. La bête, furieuse, l'enveloppait du battement de ses ailes. Il l'étreignait contre sa poitrine, et à mesure qu'elle agonisait, ses rires redoublaient, éclatants et superbes comme des chocs d'épée. Hamilcar baissait la tête, ébloui par ces présages de grandeur. Mais depuis quelque temps, une inquiétude l'agite. Il regarde au loin les voiles qui passent sur la mer. Il est triste. Il repousse le pain. Il s'informe des dieux. Il veut connaître Carthage. « Non, non, pas encore !» s'écria le suffète. Le vieil esclave parut savoir le péril qui effrayait Hamilcar, et il reprit. « Comment le retenir ? Il me faut déjà lui faire des promesses. Et je ne suis venu à Carthage que pour lui acheter un poignard à manche d'argent avec des perles tout autour. » Puis il conta qu'ayant aperçu le suffète sur la terrasse, il s'était donné au gardien du port pour une de ces femmes de Salambo afin de pénétrer jusqu'à lui. Hamilcar resta longtemps comme perdu dans ses délibérations. Enfin il dit « Demain, tu te présenteras à Mégara, au coucher du soleil, derrière les fabriques de pourpre, en imitant par trois fois le cri d'un chacal. Si tu ne me vois pas, le premier jour de chaque lune, tu reviendras à Carthage. N'oublie rien, aime-le. Maintenant, tu peux lui parler d'Hamilcar. » L'esclave reprit son costume, et ils sortirent ensemble de la maison et du port. Hamilcar continua seul à pied, sans escorte, car les réunions des anciens étaient, dans les circonstances extraordinaires, toujours secrètes, et l'on s'y rendait mystérieusement. D'abord, il longea la face orientale de l'acropole, passa ensuite par le marché aux herbes, les galeries de Quincido, les faubourgs des parfumeurs. Les rares lumières s'éteignaient, les rues plus larges se faisaient silencieuses, puis des ombres glissèrent dans les ténèbres. Elles le suivaient, d'autres survinrent, et toutes se dirigeaient comme lui du côté des Mappales. Le temple de Moloch était bâti au pied d'une gorge escarpée, dans un endroit sinistre. On n'apercevait d'en bas que de hautes murailles montant indéfiniment, telles que les parois d'un monstrueux tombeau. La nuit était sombre, un brouillard grisâtre semblait peser sur la mer. Elle battait contre la falaise avec un bruit de râles et de sanglots, et des ombres peu à peu s'évanouissaient comme si elles eussent passé à travers les murs. Mais sitôt qu'on avait franchi la porte, on se trouvait dans une vaste cour quadrangulaire que bordaient des arcades. Au milieu se levait une masse d'architecture à 8 pans égaux. Des coupoles la surmontaient en se tassant autour d'un second étage qui supportait une manière de rotonde d'où s'élançait un cône à courbe rentrante terminé par une boule au sommet. Des feux brûlaient dans des cylindres en filigrane emmanchés à des perches que portaient des hommes. Ces lueurs vacillaient sous les bourrasques du vent et rougissaient les peignes d'or, fixant à la nuque leurs cheveux tressés. Ils couraient, s'appelaient pour recevoir les anciens. Sur les dalles, de place en place, étaient accroupis comme des sphinx, des lions énormes, symbole vivant du soleil dévorateur. Il sommeillait les paupières entrecloses. Mais réveillé par les pas et par les voix, il se levait lentement, venait vers les anciens qu'il reconnaissait à leur costume, se frottait contre leurs cuisses en bombant le dos avec des bâillements sonores. La vapeur de leur haleine passait sur la lumière des torches. L'agitation redoubla, des portes se fermèrent, tous les prêtres s'enfuirent, et les anciens disparurent sous les colonnes qui faisaient autour du temple un vestibule profond. Elles étaient disposées de façon à reproduire par leur rang circulaire, compris les uns dans les autres, la période saturnienne contenant les années les mois les jours, et se touchait à la fin contre la muraille du sanctuaire. C'est là que les anciens déposaient leurs bâtons en corne de narval, car une loi toujours observée punissait de mort celui qui entrait à la séance avec une arme quelconque. Plusieurs portaient au bas de leurs vêtements une déchirure arrêtée par un galon de pourpre pour bien montrer qu'en pleurant la mort de leurs proches, ils n'avaient point ménagé leurs habits. Et ce témoignage d'affliction empêchait la fente de s'agrandir. D'autres gardaient leur barbe enfermée dans un petit sac de peau violette que deux cordons rattachaient aux oreilles. Tous s'abordèrent en s'embrassant poitrine contre poitrine. Ils entouraient Amilcar, ils le félicitaient. On aurait dit des frères qui revoient leurs frères. Ces hommes étaient généralement trapus, avec des nez recourbés comme ceux des colosses assyriens. Quelques-uns, cependant, par leurs pommettes plus saillantes, leur taille plus haute et leurs pieds plus étroits, trahissaient une origine africaine, des ancêtres nomades. Ceux qui vivaient continuellement au fond de leur comptoir avaient le visage pâle. D'autres gardaient sur eux comme la sévérité du désert et d'étranges joyaux scintillaient à tous les doigts de leurs mains, hâlés par les soleils inconnus. On distinguait des navigateurs au balancement de leur démarche, tandis que les hommes d'agriculture sentaient le pressoir, les herbes sèches et la sueur de mulets. Ces vieux pirates faisaient labourer des campagnes, ces ramasseurs d'argent équipaient des navires, ces propriétaires de culture nourrissaient des esclaves exerçant des métiers. Tous étaient savants dans les disciplines religieuses, experts en stratagèmes, impitoyables et riches. Ils avaient l'air fatigués par de longs soucis. Leurs yeux pleins de flammes regardaient avec défiance, et l'habitude des voyages et du mensonge, du trafic et du commandement, donnait à toute leur personne un aspect de ruse et de violence, une sorte de brutalité discrète et convulsive. D'ailleurs, l'influence du dieu les assombrissait. Ils passèrent d'abord par une salle voûtée qui avait la forme d'un œuf. Sept portes, correspondant aux sept planètes, étalaient contre sa muraille sept carrés de couleurs différentes. Après une longue chambre, ils entrèrent dans une autre salle pareille. Un candélabre tout couvert de fleurs ciselées brûlait au fond, et chacune de ses huit branches en or portait dans un calice de diamant une mèche de byssus. Il était posé sur la dernière des longues marches qui allaient vers le grand autel, terminé aux angles par des cornes d'airain. Deux escaliers latéraux conduisaient à son sommet aplati. On n'en voyait pas les pierres. C'était comme une montagne de cendres accumulées, et quelque chose d'indistinct fumait dessus lentement. Puis, au-delà, plus haut que le candélabre, et bien plus haut que l'autel, se dressait le Moloch, tout en fer, avec sa poitrine d'homme où bâillaient des ouvertures. Ses ailes ouvertes s'étendaient sur le mur, ses mains allongées descendaient jusqu'à terre. Trois pierres noires, que bordait un cercle jaune, figuraient trois prunelles à son front, et comme pour beugler, il levait dans un effort terrible sa tête de taureau. Autour de l'appartement étaient rangés des escabeaux d'ébène. Derrière chacun d'eux, une tige en bronze posant sur trois griffes supportait un flambeau. Toutes ces lumières se reflétaient dans les losanges de nacre qui pavaient la salle. Elle était si haute que la couleur rouge des murailles, en montant vers la voûte, se faisait noire, et les trois yeux de l'idole apparaissaient tout en haut, comme des étoiles à demi perdues dans la nuit. Les anciens s'assirent sur les escabeaux d'ébène, ayant mis par-dessus leur tête la queue de leur robe. Ils restaient immobiles, les mains croisées dans leurs larges manches, et le dallage de nacre semblait un fleuve lumineux qui, ruisselant de l'autel vers la porte, coulait sous leurs pieds nus. Les quatre pontifes se tenaient au milieu, dos à dos, sur quatre sièges d'ivoire formant la croix, le grand prêtre d'Eshmoun en robe d'hyacinthe, le grand prêtre de Tanit en robe de lin blanc, le grand prêtre de Camon en robe de lin fauve et le grand prêtre de Moloch en robe de pourpre. Hamilcar s'avança vers le candélabre. Il tourna tout autour en considérant les mèches qui brûlaient, puis jeta sur elle une poudre parfumée. Des flammes violettes parurent à l'extrémité des branches. Alors une voix aiguë s'éleva, une autre y répondit, et les 100 anciens, les 4 pontifes et Hamilcar debout, tous à la fois, entonnèrent un hymne et répétant toujours les mêmes syllabes et renforçant les sons, leur voix montait, éclatèrent, devinrent terribles, puis d'un seul coup se turent. On attendit quelque temps. Enfin, Hamilcar tira de sa poitrine une petite statuette à 3 têtes, bleue comme un saphir, et la posa devant lui. C'était l'image de la vérité, le génie même de sa parole. Puis il la replaça dans son sein, et tous, comme saisis d'une colère soudaine, crièrent. « Ce sont tes bons amis, les barbares, traîtres, infâmes. Tu reviens pour nous voir périr, n'est-ce pas ? Laissez-le parler. Non, non !» Il se vengeait de la contrainte où le cérémonial politique les avait tout à l'heure obligés. Et bien qu'ils eussent souhaité le retour d'Hamilcar, ils s'indignaient maintenant de ce qu'ils n'avaient point prévenu leur désastre, ou plutôt ne les avaient pas subis comme eux. Quand le tumulte fut calmé, le pontife de Moloch se leva. « Nous te demandons pourquoi tu n'es pas revenu à Carthage. »« Que vous importe ?» répondit dédaigneusement le suffète. Leurs cris redoublèrent. « De quoi m'accusez-vous ? J'ai mal conduit la guerre, peut-être. Vous avez vu l'ordonnance de mes batailles. Vous autres, qui laissez commandement à des barbares, assez, assez !» Il reprit d'une voix basse pour se faire mieux écouter. « Oh, cela est vrai. Je me trouve, lumière des Baals. Il en est parmi vous d'intrépides. Giscon, lève-toi !» Et parcourant la marche de l'autel, les paupières à demi fermées, comme pour chercher quelqu'un, il répéta. « Lève-toi, Giscon. Tu peux m'accuser. Ils te défendront. Mais où est-il ?» Puis comme se ravisant. « Ah, dans sa maison, sans doute. Entouré de ses fils, commandant à ses esclaves. Heureux. Et comptant sur le mur les colliers d'honneur que la patrie lui a donnés. » Il s'agitait avec des haussements d'épaules comme flagellé par les lanières. « Vous ne savez même pas s'il est vivant ou s'il est mort. » Et sans se soucier de leurs clameurs, il disait qu'en abandonnant le suffète, c'était la République qu'on avait abandonnée. De même, la paix romaine, si avantageuse qu'elle leur parut, était plus funeste que 20 batailles. Quelques-uns applaudirent, les moins riches du conseil, suspects d'incliner toujours vers le peuple ou vers la tyrannie. Leurs adversaires, chefs des Sicites et administrateurs, en triomphaient par le nombre. Les plus considérables s'étaient rangés près d'Annon, qui siégeait à l'autre bout de la salle, devant la haute porte fermée par une tapisserie d'hyacinthe. Il avait peint avec du fard les ulcères de sa figure, mais la poudre d'or de ses cheveux lui était tombée sur les épaules, où elle faisait 2 plaques brillantes, et il paraissait blanchâtre, fins et crépus comme de la laine. Des linges imbibés d'un parfum gras qui dégouttelait sur les dalles enveloppaient ses mains, et sa maladie sans doute avait considérablement augmenté, car ses yeux disparaissaient sous les plis de ses paupières. Pour voir, il lui fallait se renverser la tête. Ses partisans l'engageaient à parler. enfin d'une voix rauque et hideuse. « Moins d'arrogance, Barca ! Nous avons tous été vaincus. Chacun supporte son malheur. Résigne-toi. » « Apprends-nous plutôt, » dit en souriant Amilcar. « Comment tu as conduit tes galères dans la flotte romaine ?»«
J'étais chassé par le vent, » répondit Annon.
« Tu fais comme le rhinocéros qui piétine dans sa fiente. Tu étales ta sottise. Tais-toi !» Et ils commencèrent à s'incriminer sur la bataille des îles Égates. Annon l'accusait de ne pas être venu à sa rencontre.
« Mais c'eût été dégarnir Eryx. Il fallait prendre le large. Qui t'empêchait ?»«
Ah, j'oubliais. Tous les éléphants ont peur de la mer. » Les gens d'Amilcar trouvèrent la plaisanterie si bonne qu'ils poussèrent de grands rires. La voûte en retentissait comme si l'on eût frappé des tympanons. Annon dénonça l'indignité d'un tel outrage. Cette maladie lui étant survenue par un refroidissement au siège d'Hécatompyle, et des pleurs coulaient sur sa face comme une pluie d'hiver sur une muraille en ruine. Amilcar reprit.
« Si vous m'aviez aimé autant que celui-là, il y aurait maintenant une grande joie dans Carthage. Combien de fois n'ai-je pas crié vers vous, et toujours vous me refusiez de l'argent. »
Nous en avions besoin, dirent les chefs des Sicites.
Et quand mes affaires étaient désespérées, nous avons bu l'urine des mulets et mangé les courroies de nos sandales. Quand j'aurais voulu que les brins d'herbe fussent des soldats et faire des bataillons avec la pourriture de nos morts, vous rappeliez chez vous ce qui me restait de vaisseau.
« Nous ne pouvions pas tout risquer, »
répondit Bat-Baal, possesseur de mines d'or dans la Gétulie d'Aritienne. « Que faisiez-vous, cependant, ici, à Carthage, dans vos maisons, derrière vos murs ? Il y a des Gaulois sur les ridans qu'il fallait pousser, des Cananéens à Cyrène qui seraient venus, et tandis que les Romains envoient à Ptolémée des ambassadeurs,
ils nous vantent les Romains à présent !»
Quelqu'un lui cria.
« Combien t'ont-ils payé pour les défendre ? Demande-le aux plaines de Brutium, aux ruines de Locre, de Métaponte et d'Héraclée. J'ai brûlé tous leurs arbres, j'ai pillé tous leurs temples, et jusqu'à la mort des petits-fils de leurs petits-fils.
« Et tu déclames comme un rhéteur !»
fit Capouras, un marchand très illustre.
« Que veux-tu donc ?
Je dis qu'il faut être plus ingénieux ou plus terrible. » Si l'Afrique entière rejette votre joug, c'est que vous ne savez pas, maître débile, l'attacher à ses épaules. Agathoclès, Régulus, Quépio, tous les hommes hardis n'ont qu'à débarquer pour la prendre. Et quand les Libyens qui sont à l'Orient s'entendront avec les Numides qui sont à l'Occident et que les nomades viendront du Sud et les Romains du Nord, un cri d'horreur s'éleva. «
Oh, vous frapperez vos poitrines, vous vous roulerez dans la poussière et vous déchirerez vos manteaux, n'importe.
Il faudra s'en aller tourner la meule dans Subur et faire la vendange sur les collines du Latium. » Ils se battaient la cuisse droite pour marquer leur scandale et les manches de leurs robes se levaient comme de grandes ailes d'oiseaux effarouchés. Amilcar, emporté par un esprit, continuait, debout sur la plus haute marche de l'autel, frémissant, terrible. Il levait les bras, et les rayons du candélabre qui brûlait derrière lui passaient entre ses doigts comme des javelots d'or. « Vous perdrez vos navires, vos campagnes, vos chariots, vos lits suspendus et vos esclaves qui vous frottent les pieds. Les chacals se coucheront dans vos palais, la charrue retournera vos tombeaux, il n'y aura plus que le cri des aigles et l'amoncellement des ruines. Tu tomberas, Carthage !» Les quatre pontifes étendirent leurs mains pour écarter l'anathème. Tous s'étaient levés. Mais le suffète de la mer, magistrat sacerdotal sous la protection du soleil, était inviolable
tant que l'assemblée des riches ne l'avait pas jugé. Une épouvante s'attachait à l'autel. Ils reculèrent. Hamilcar ne parlait plus. L'œil fixe et la face aussi pâle que les perles de sa tiare, il haletait, presque effrayé par lui-même, et l'esprit perdu dans des visions funèbres. De la hauteur où il était, tous les flambeaux sur les tiges de bronze lui semblaient une vaste couronne de feu posée à ras des dalles, des fumées noires, s'en échappant, montant dans les ténèbres de la voûte, et le silence pendant quelques minutes fut tellement profond qu'on entendait au loin le bruit de la mer. Puis les anciens se mirent à s'interroger. Leurs intérêts, leur existence se trouvaient attaqués par les barbares. Mais on ne pouvait les vaincre sans le secours du suffète, et cette considération, malgré leur orgueil, leur fit oublier toutes les autres. On prit à part ses amis. Il y eut des réconciliations intéressées, des sous-entendus et des promesses. Hamilcar ne voulait plus se mêler d'aucun gouvernement. Tous le conjurèrent. Ils le suppliaient, et comme le mot de trahison revenait dans leur discours, il s'emporta. Le seul traître, c'était le Grand Conseil, car l'engagement des soldats expirant avec la guerre, ils devenaient libres dès que la guerre était finie. Il exalta même leur bravoure et tous les avantages qu'on en pourrait tirer en les intéressant à la République par des donations, des privilèges. Alors Magdassan, un ancien gouverneur de province, dit en roulant ses yeux jaunes. Vraiment, Barca, à force de voyager, tu es devenu un grec ou un latin, je ne sais quoi. Que parles-tu de récompense pour ces hommes? Périssent 10 000 barbares plutôt qu'un seul d'entre nous. Les anciens approuvaient de la tête en murmurant. Oui, faut-il tant se gêner? On en trouve toujours. Et l'on s'en débarrasse commandément, n'est-ce pas? On les abandonne, ainsi que vous avez fait en Sardaigne. On avertit l'ennemi du chemin qu'ils doivent prendre, comme pour ces Gaulois dans la Sicile, ou bien on les débarque au milieu de la mer. En revenant, j'ai vu le rocher tout blanc de leurs os.
« Quel malheur !» fit impudemment Capouras.
« Est-ce qu'ils n'ont pas 100 fois tourné à l'ennemi ?» s'exclamaient les autres. Hamilcar s'écria. « Pourquoi donc, malgré vos lois, les avez-vous rappelés à Carthage? Et quand ils sont dans votre ville, pauvres et nombreux, au milieu de toutes vos richesses, l'idée ne vous vient pas de les affaiblir par la moindre division? Ensuite, vous les congédiez avec leurs femmes et avec leurs enfants, tous, sans garder un seul otage. Comptiez-vous qu'ils s'assassineraient pour vous épargner la douleur de tenir vos serments? Vous les haïssez parce qu'ils sont forts. Vous me haïssez encore plus, moi, leur maître. Oh, je l'ai senti tout à l'heure, quand vous me baisiez les mains et que vous vous reteniez tous pour ne pas les mordre. »
Si les lions qui dormaient dans la cour fussent entrés en hurlant, la clameur n'eût pas été plus épouvantable.
Mais le pontife d'Eshmoun se leva et, les deux genoux l'un contre l'autre, les coudes au corps, tout droit et les mains à demi ouvertes, il dit « Barca, Carthage a besoin que tu prennes contre les mercenaires le commandement général des forces puniques. » « Je refuse, » répondit Hamilcar. Nous te donnerons pleine autorité, crièrent les chefs des Sicites.
Non, sans aucun contrôle, sans partage, tout l'argent que tu voudras, tous les captifs, tout le butin, 50 zérètes de terre par cadavre d'ennemi.
Non, non, parce qu'il est impossible de vaincre avec vous.
Il en a peur, parce que vous êtes lâches, avares, ingrats, pusillanimes et fous. Il les ménage.
Pour se mettre à leur tête, dit quelqu'un.
Et revenir sur nous, dit un autre. Et du fond de la salle,
Hannon hurla.
« Il veut se faire roi !»
Alors ils bondirent, en renversant les sièges et les flambeaux. Leur foule s'élança vers l'autel. Ils brandissaient des poignards, mais, fouillant sous ses manches, Hamilcar tira deux larges coutelas et, à demi courbé, le pied gauche en avant, les yeux flamboyants, les dents serrées, il les défiait, immobiles, sous le candélabre d'or. Ainsi, par précaution, ils avaient apporté des armes. C'était un crime. Ils se regardèrent les uns les autres, effrayés. Comme tous étaient coupables, chacun bien vite se rassura, et peu à peu, tournant le dos au suffète, ils redescendirent, enragés d'humiliation. Pour la seconde fois, ils reculaient devant lui. Pendant quelque temps, ils restèrent debout. Plusieurs qui s'étaient blessés les doigts les portaient à leur bouche ou les roulaient doucement dans les bas de leur manteau, et ils allaient s'en aller quand Hamilcar entendit ces paroles. Eh, c'est une délicatesse pour ne pas affliger sa fille. Une voix plus haute s'éleva. Sans doute, puisqu'elle prend ses amants parmi les mercenaires. D'abord il chancela, puis ses yeux cherchèrent rapidement Shahabarim, mais seul, le prêtre de Tanit était resté à sa place, et Hamilcar n'aperçut de loin que son haut bonnet. Tous lui ricanaient à la face. À mesure qu'augmentait son angoisse, leur joie redoublait, et au milieu des huées, ceux qui étaient par derrière criaient « On l'a vu sortir de sa chambre. Un matin du mois de Tammuz, c'est le voleur du Zaïmph, un homme très beau, plus grand que toi. » Il arracha sa tiare, un signe de sa dignité, sa tiare à 8 rangs mystiques dont le milieu portait une coquille d'émeraude, et à 2 mains, de toutes ses forces, il la lança par terre. Les cercles d'or, en se brisant, rebondirent, et les perles sonnèrent sur les dalles. Ils virent alors, sur la blancheur de son front, une longue cicatrice. Elle s'agitait comme un serpent entre ses sourcils. Tous ses membres tremblaient. Il monta un des escaliers latéraux qui conduisaient sur l'autel, et il marchait dessus. C'était se vouer au dieu s'offrir en holocauste. Le mouvement de son manteau agitait les lueurs du candélabre plus bas que ses santales, et la poudre fine, soulevée par ses pas, l'entourait comme un nuage jusqu'au ventre. Il s'arrêta entre les jambes du colosse d'airain. Il prit dans ses mains 2 poignées de cette poussière dont la vue seule faisait frissonner d'horreur tous les Carthaginois, et il dit: par les 100 flambeaux de vos intelligences, par les 8 feux des Kabyres, par les étoiles, les météores et les volcans, par tout ce qui brûle, par la soif du désert et la salure de l'océan, par la caverne d'Adrumète et l'empire des âmes, par l'extermination, par la cendre de vos fils et la cendre des frères de vos aïeux, avec qui maintenant je confonds la mienne, vous, les 100 du conseil de Carthage, vous avez menti en accusant ma fille, et moi, Hamilcar Barca, suffète de la mer, chef des riches et dominateur du peuple, devant Moloch à tête de taureau, je jure. On s'attendait à quelque chose d'épouvantable, mais il reprit d'une voix plus haute et plus calme: que même je ne lui en parlerai pas. Les serviteurs sacrés, portant des peignes d'or, entrèrent, les uns avec des éponges de pourpre et les autres avec des branches de palmier. Ils relevèrent le rideau d'hyacinthe étendu devant la porte, et par l'ouverture de cet angle, on aperçut au fond des autres salles le grand ciel rose qui semblait continuer la voûte, en s'appuyant à l'horizon sur la mer toute bleue. Le soleil, sortant des flots, montait. Il frappa tout à coup contre la poitrine du colosse d'airain, divisé en 7 compartiments que fermaient des grilles. Sa gueule aux dents rouges s'ouvrait dans un horrible bâillement. Ses naseaux énormes se dilataient. Le grand jour l'animait, lui donnait un air terrible et impatient, comme s'il avait voulu bondir au dehors pour se mêler avec l'astre, le dieu, et parcourir ensemble les immensités. Cependant, les flambeaux répandus par terre brûlaient encore, en allongeant çà et là sur les pavés de nacre comme des taches de sang. Les anciens chancelaient, épuisés. Ils aspiraient à plein poumon la fraîcheur de l'air. La sueur coulait sur leurs faces livides. À force d'avoir crié, ils ne s'entendaient plus. Mais leur colère contre le suffète n'était point calmée. En manière d'adieu, il lui jetait des menaces. Et Hamilcar leur répondait. « À la nuit prochaine, Barca, dans le temple d'Eshmoun. J'y serai. Nous te ferons condamner par les riches, et moi par le peuple. Prends garde de finir sur la croix, et vous déchirez dans les rues. » Dès qu'ils furent sur le seuil de la cour, ils reprirent un calme maintien. Leurs coureurs et leurs cochers les attendaient à la porte. La plupart s'en allèrent sur des mules blanches. Le suffète sauta dans son char, prit les rênes. Les deux bêtes, courbant leur encolure et frappant en cadence les cailloux qui rebondissaient, montèrent au grand galop toute la voie des Mappales, et le vautour d'argent à la pointe du timon semblait voler tant le char passait vite. La route traversait un champ, planté de longues dalles, aiguës par le sommet telles que des pyramides, et qui portaient entaillées à leur milieu une main ouverte, comme si le mort couché dessous l'eût tendu vers le ciel pour réclamer quelque chose. Ensuite étaient disséminées des cabanes en terre, en branchages, en claies de jonc, toutes de forme conique, de petits murs en cailloux, des rigoles d'eau vive, des cordes de sparterie, des haies de nopals séparaient irrégulièrement ces habitations qui se tassaient de plus en plus en s'élevant vers les jardins du suffète. Mais Hamilcar tendait ses yeux sur une grande tour dont les 3 étages faisaient 3 monstrueux cylindres, le premier bâti en pierre, le second en briques et le troisième tout en cèdre, supportant une coupole de cuivre sur 24 colonnes de genévrier, d'où retombaient en manière de guirlande des chaînettes d'airain entrelacées. Ce haut édifice dominait les bâtiments qui s'étendaient à droite, les entrepôts, la maison de commerce, tandis que le palais des femmes se dressait au fond des cyprès, alignés comme 2 murailles de bronze. Quand le char retentissant fut entré par la porte étroite, il s'arrêta sous un large hangar où des chevaux, retenus à des entraves, mangeaient des tas d'herbes coupées. Tous les serviteurs accoururent. Ils faisaient une multitude, ceux qui travaillaient dans les campagnes par terreur des soldats ayant été ramenés à Carthage. Les laboureurs, vêtus de peaux de bête, traînaient des chaînes rivées à leurs chevilles. Les ouvriers des manufactures de pourpre avaient les bras rouges comme des bourreaux, les marins des bonnets verts, les pêcheurs des colliers de corail, les chasseurs un filet sur l'épaule, et les gens de Mégara, des tuniques blanches ou noires, des caleçons de cuir, des calottes de paille, de feutre ou de toile, selon leurs services ou leurs industries différentes. Par derrière se pressait une populace en haillons. Ils vivaient, ceux-là, sans aucun emploi, loin des appartements, dormaient la nuit dans les jardins, dévoraient les restes des cuisines, moisissures humaines, qui végétaient à l'ombre du palais. Hamilcar les tolérait, par prévoyance encore plus que par dédain. Tous, en témoignage de joie, s'étaient mis une fleur à l'oreille, et beaucoup d'entre eux ne l'avaient jamais vue. Mais des hommes, coiffés comme des sphinx et munis de grands bâtons, s'élancèrent dans la foule en frappant de droite et de gauche. C'était pour repousser les esclaves curieux de voir leur maître, afin qu'il ne fût pas assailli sous leur nombre et incommodé par leur odeur. Alors, tous se jetèrent à plat ventre en criant « Œil de Baal, que ta maison fleurisse !» Et entre ces hommes ainsi couchés par terre dans l'avenue des Cyprès, l'intendant des intendants, Abdalonim, coiffé d'une mitre blanche, s'avança vers Amilcar, un encensoir à la main. Salammbô descendait alors l'escalier des galères. Toutes ses femmes venaient derrière elle, et à chacun de ses pas, elle descendait aussi. Les têtes des négresses marquaient de gros points noirs la ligne des bandeaux à plaques d'or qui serraient le front des Romaines. D'autres avaient, dans les cheveux, des flèches d'argent, des papillons d'émeraude ou de longues aiguilles étalées en soleil. Sous la confusion de ses vêtements blancs, jaunes et bleus, les anneaux, les agrafes, les colliers, les franges, les bracelets resplendissaient. Un murmure d'étoffes légères s'élevait. On entendait le claquement des sandales avec le bruit sourd des pieds nus posant sur le bois. Et çà et là, un grand eunuque, qui les dépassait des épaules, souriait la face en l'air. Quand l'acclamation des hommes se fut apaisée en se cachant le visage avec leurs manches, elles poussèrent ensemble un cri bizarre, pareil au hurlement d'une louve, et il était si furieux et si strident qu'il semblait faire, du haut en bas, vibrer comme une lyre le grand escalier d'ébène, tout couvert de femmes. Le vent soulevait leurs voiles, et les minces tiges des papyrus se balançaient doucement. On était au mois de Chébaz, en plein hiver. Les grenadiers en fleurs se bombaient sur l'azur du ciel, et à travers les branches, la mer apparaissait avec une île au loin, à demi perdue dans la brume. Amilcar s'arrêta en apercevant Salammbô. Elle lui était survenue après la mort de plusieurs enfants mâles. D'ailleurs, la naissance des filles passait pour une calamité dans les religions du soleil. Les dieux, plus tard, lui avaient envoyé un fils. Mais il gardait quelque chose de son espoir trahi et comme l'ébranlement de la malédiction qu'il avait prononcée contre elle. Salammbô, cependant, continuait à marcher. Des perles de couleurs variées descendaient en longues grappes de ses oreilles, sur ses épaules et jusqu'aux coudes. Sa chevelure était crêpée, de façon à simuler un nuage. Elle portait autour du cou de petites plaques d'or quadrangulaires représentant une femme entre deux lions cabrés. Et son costume reproduisait en entier l'accoutrement de la déesse. Sa robe d'hyacinthe, à manches larges, lui serrait la taille en s'évasant vers le bas. Le vermillon de ses lèvres faisait paraître ses dents plus blanches et l'antimoine de ses paupières, ses yeux plus longs. Ses sandales, coupées dans un plumage d'oiseau, avait des talons très hauts et elle était pâle extraordinairement à cause du froid sans doute. Enfin, elle arriva près d'Amilcar et sans le regarder, sans lever la tête, elle lui dit « Salut, œil de Balim, gloire éternelle, triomphe, loisir, satisfaction, richesse. Voilà longtemps que mon cœur était triste et la maison languissait. Mais le maître qui revient est comme Taïmouz ressuscité et sous ton regard, ô Père, une joie, une existence nouvelle va partout s'épanouir. » Et prenant des mains de Tanahar un petit vase oblong où fumait un mélange de farine, de beurre, de cardamome et de vin, « Bois à pleine gorge, » dit-elle. « La boisson du retour préparée par ta servante. » Il répliqua « Bénédiction sur toi !» Et il saisit machinalement le vase d'or qu'elle lui tenait. Cependant, il l'examinait avec une attention si âpre que Salammbô, troublé, balbutia « On t'a dit, ô maître !»«
Oui, je sais, » fit Amilcar à voix basse.
« Était-ce un aveu ? Ou parlait-elle des barbares ?» Et il ajouta quelques mots vagues sur les embarras publics qu'il espérait à lui seul dissiper. « Ô père ! » s'exclama Salammbô, « tu n'effaceras pas ce qui est irréparable. »
Alors il se recula, et Salammbô s'étonnait de son ébahissement, car elle ne songeait point à Carthage, mais au sacrilège dont elle se trouvait complice. Cet homme qui faisait trembler les légions et qu'elle connaissait à peine, l'effrayait comme un dieu. Il avait deviné, il savait tout, quelque chose de terrible allait venir. Elle s'écria « Grâce !» Hamilcar baissa la tête, lentement. Bien qu'elle voulût s'accuser, elle n'osait ouvrir les lèvres, et cependant elle étouffait du besoin de se plaindre et d'être consolée. Hamilcar combattait l'envie de rompre son serment. Il le tenait par orgueil ou par crainte d'en finir avec son incertitude. Il la regardait en face de toutes ses forces pour saisir ce qu'elle cachait au fond de son cœur. Peu à peu, en haletant, Salammbô s'enfonçait la tête dans les épaules, écrasée par ce regard trop lourd. Il était sûr maintenant qu'elle avait failli dans l'étreinte d'un barbare. Il frémissait. Il leva ses deux poings. Elle poussa un cri et tomba entre ces femmes qui s'empressèrent autour d'elle. Hamilcar tourna les talons. Tous les intendants le suivirent. On ouvrit la porte des entrepôts et il entra dans une vaste salle ronde où aboutissaient, comme les rayons d'une roue à son moyeu, de longs couloirs qui conduisait vers d'autres salles. Un disque de pierre s'élevait au centre des balustres pour soutenir des coussins accumulés sur des tapis. Le suffète se promena d'abord à grands pas rapides. Il respirait bruyamment, il frappait la terre du talon, il se passait la main sur le front comme un homme harcelé par les mouches. Mais il secoua la tête et, en apercevant l'accumulation des richesses, il se calma. Sa pensée, qu'attiraient les perspectives des couloirs, se répandaient dans les autres salles pleines de trésors plus rares, des plaques de bronze, des lingots d'argent et des barres de fer alternées avec les saumons d'étain apportés des cassitérides par la mer ténébreuse. Les gommes du pays des Noirs débordaient de leurs sacs en écorce de palmier, poudre d'or tassée dans des outres, fuyaient insensiblement par les coutures trop vieilles. De minces filaments tirés des plantes marines pendaient entre les lins d'Égypte, de Grèce, de Taprobane et de Judée. Des madrépores, tels que de larges buissons, se hérissaient au pied des murs, et une odeur indéfinissable flottait, exhalaison des parfums, des cuirs, des épices et des plumes d'autruche liées en gros bouquets tout au haut de la voûte. Devant chaque couloir, des dents d'éléphants posées debout, en se réunissant par les pointes, formaient un arc au-dessus de la porte. Enfin, il monta sur le disque de pierre. Tous les intendants se tenaient les bras croisés, la tête basse, tandis qu'Abdalonim levait d'un air orgueilleux sa mitre pointue. Hamilcar interrogea le chef des navires. C'était un vieux pilote aux paupières éraillées par le vent, et des flocons blancs descendaient jusqu'à ses hanches, comme si l'écume des tempêtes lui était restée sur la barbe. Il répondit qu'il avait envoyé une flotte par Gadès et Timiamata, pour tâcher d'atteindre Ezion-Gaber en doublant la corne du sud et le promontoire des aromates. D'autres avaient continué dans l'ouest durant 4 lunes sans rencontrer de rivage. Mais la proue des navires s'embarrassait dans les herbes, l'horizon retentissait continuellement du bruit des cataractes, des brouillards couleur de sang obscurcissait le soleil, une brise toute chargée de parfums endormait les équipages, et à présent ils ne pouvaient rien dire, tant leur mémoire était troublée. Cependant, on avait remonté les fleuves des Scythes, pénétré en Colchide, chez les Ingriens, chez les Estiens, ravis dans l'archipel 1500 vierges, et coulé bas tous les vaisseaux étrangers, naviguant au-delà des caps Eustrimon, pour que le secret des routes ne fût pas connu. Le roi Ptolémée retenait l'encens de Cheshbar, Syracuse et Latia. La Corse et les îles n'avaient rien fourni, et le vieux pilote baissa la voix pour annoncer qu'une trirème était prise à Rusicada par les Numides. « Car ils sont avec eux, maître !» Hamilcar fronça les sourcils. Puis il fit signe de parler au chef des voyages enveloppé d'une robe brune sans ceinture et la tête prise dans une longue écharpe d'étoffe blanche qui, passant au bord de sa bouche, lui retombait par derrière l'épaule. Les caravanes étaient parties régulièrement à l'équinoxe d'hiver, mais de 1500 hommes se dirigeant sur l'extrême Éthiopie avec d'excellents chameaux, des outres neuves et des provisions de toile peinte, un seul avait reparu à Carthage, les autres étant morts de fatigue ou devenus fous par la terreur du désert. Et il disait avoir vu, bien au-delà du Harush noir, après les Atarantes et le pays des grands singes, d'immenses royaumes où les moindres ustensiles sont tous en or, un fleuve couleur de lait, large comme une mer, des forêts d'arbres bleus, des collines d'aromates, des monstres à figure humaine végétant sur les rochers et dont les prunelles, pour vous regarder, s'épanouissent comme des fleurs. Puis, derrière des lacs tout couverts de dragons, des montagnes de cristal qui supportent le soleil. D'autres étaient revenus de l'Inde avec des paons, du poivre et des tissus nouveaux. Quant à ceux qui vont acheter des chalcédoines par le chemin des Sirtes et le temple d'Amon, sans doute, ils avaient péri dans les sables. Les caravanes de la Gétulie et de Phazzana avaient fourni leurs provenances habituelles, mais il n'osait à présent, lui, le chef des voyages, en équiper une. Hamilcar comprit. Les mercenaires occupaient la montagne. Avec un sourd gémissement, il s'appuya sur l'autre coude. Et le chef des métairies avait si peur de parler qu'il tremblait horriblement malgré ses épaules trapues et ses grosses prunelles rouges. Sa face, camarde comme celle d'un dogue, était surmontée d'un réseau de fils d'écorce. Il portait un ceinturon de peau en léopard, avec tous les poils, où reluisaient deux formidables coutelas. Dès qu'Hamilcar se détourna, il se mit en criant à invoquer tous les Baals.
Ce n'était pas sa faute, il n'y pouvait rien, il avait observé les températures, les terrains, les étoiles, fait les plantations au solstice d'hiver, les élagages au décour de la lune, inspecté les esclaves, ménagé leurs habits.
Mais Hamilcar s'irritait de cette loquacité. Il claqua de la langue, et l'homme au coutelas, d'une voix rapide,
« Ah, maître, ils ont tout pillé, tout saccagé, tout détruit. 3000 pieds d'arbres sont coupés à Machala, et à Ubada les greniers défoncés, les citernes comblées, à Tédès ils ont emporté 1500 gomores de farine, à Meradzana tuer les pasteurs, manger les troupeaux, brûler ta belle maison à poutres de cèdre où tu venais l'été. Les esclaves de Tuburbo, qui sciaient de l'orge, se sont enfuis vers les montagnes, et les ânes, les bardeaux, les mulets, les bœufs de Taormine, et les chevaux oranges, plus un seul. Tous emmenés, c'est une malédiction, je n'y survivrai pas. »
Il reprenait en pleurant.
« Ah, si tu savais, comme les celliers étaient pleins et les charrues reluisantes. Ah, les beaux béliers, ah, les beaux taureaux !»
La colère d'Hamilcar l'étouffait. Elle éclata.
« Tais-toi ! Suis-je donc un pauvre ? Pas de mensonge, dites vrai. Je veux savoir tout ce que j'ai perdu, jusqu'au dernier cycle. Jusqu'au dernier cab. Abdalonim, apporte-moi les comptes des vaisseaux, ceux des caravanes, ceux des métairies, ceux de la maison, et si votre conscience est trouble, malheur sur vos têtes. Sortez !»
Tous les intendants, marchant à reculons et les poings jusqu'à terre, sortirent. Abdalonim alla prendre au milieu d'un casier dans la muraille des cordes à nœuds, des bandes de toile ou de papyrus, des omoplates de mouton chargées d'écritures fines. Il les déposa au pied d'Hamilcar, lui mit entre les mains un cadre de bois garni de 3 fils intérieurs où étaient passées des boules d'or, d'argent et de cornes, et il commença. 192 maisons dans les Mappales, louées aux Carthaginois, nouveaux, à raison d'un béka par lune.
« Non, c'est trop, ménage les pauvres, et tu écriras les noms de ceux qui te paraîtront les plus hardis, en tâchant de savoir s'ils sont attachés à la République. Après ?»
Abdalonim hésitait, surpris de cette générosité. Hamilcar lui arracha des mains les bandes de toile.
« Qu'est-ce donc ? 3 palais autour de Khamon à 12 késitas par mois. mais en vain. Je ne veux pas que les riches me dévorent. »
L'intendant des intendants, après un long salut, reprit. « Prêté à Tigillas, jusqu'à la fin de la saison, 2 kikars au denier 3, intérêt maritime. À Bar Malkart, 1500 sicles sur le gage de 30 esclaves, mais 12 sont morts dans les marais salins. »
« C'est qu'il n'était pas robuste, » dit en riant le suffète.
« N'importe, il a besoin d'argent, satisfais-le. Il faut toujours prêter, et à des intérêts divers, selon la richesse des personnes. »
Alors le serviteur s'empressa de lire tout ce qu'avaient rapporté les mines de fer d'Annaba, les pêcheries de corail, les fabriques de pourpre, la ferme de l'impôt sur les Grecs domiciliés, l'exportation de l'argent en Arabie, où il valait 10 fois l'or, la prise des vaisseaux, déduction faite du 10e pour le temple de la déesse. Chaque fois j'ai déclaré 1/4 de moins, maître. Hamilcar comptait avec les billes. Elles sonnaient sous ses doigts.
Assez. Qu'as-tu payé?
À Stratoniclès de Corinthe et à 3 marchands d'Alexandrie, sur les lettres que voilà, elles sont rentrées, 10 000 drachmes athéniennes et 1 200 talons d'or syrien. La nourriture des équipages s'élevant à 20 mines par mois pour 1 trirème.
Je le sais, combien de perdus?
En voici le compte sur ces lames de plomb, dit l'intendant. Quant au navire Nolisé, en commun, comme il a fallu souvent jeter les cargaisons à la mer, on a réparti les pertes, inégales, par tête d'associé. Pour des cordages, empruntés aux arsenaux, et qu'il a été impossible de leur rendre, les Sicites ont exigé 800 késitas avant l'expédition d'Utique.
« Encore eux ?»
fit Hamilcar en baissant la tête. Et il resta quelque temps comme écrasé par le poids de toutes les haines qu'il sentait sur lui.
« Mais je ne vois pas les dépenses de Mégara. »
Abdalonim, en pâlissant, alla prendre dans un autre casier des planchettes de sycomore enfilées par paquets à des cordes de cuir.
Hamilcar l'écoutait, curieux des détails domestiques et s'apaisant à la monotonie de cette voix qui énumérait des chiffres.
Abdalonim se ralentissait. Tout à coup, il laissa tomber par terre les feuilles de bois et il se jeta lui-même à plat ventre, les bras étendus dans la position des condamnés. Hamilcar, sans s'émouvoir, ramassa les tablettes, et ses lèvres s'écartèrent et ses yeux s'agrandirent lorsqu'il aperçut à la dépense d'un seul jour une exorbitante consommation de viande, de poissons, d'oiseaux, de vins et d'aromates, avec des vases brisés, des esclaves morts, des tapis perdus. Abdalonim, toujours prosterné, lui apprit le festin des barbares.
Il n'avait pu se soustraire à l'ordre des anciens. Salammbô, d'ailleurs, voulant que l'on prodiguât l'argent pour mieux recevoir les soldats.
Au nom de sa fille, Hamilcar se leva d'un bond. Puis, en serrant les lèvres, il s'accroupit sur les coussins. Il en déchirait les franges avec ses ongles, haletant les prunelles fixes.
« Lève-toi » dit-il,
et il descendit. Abdalonim le suivait, ses genoux tremblaient, mais, saisissant une barre de fer, il se mit comme un furieux à desceller les dalles. Un disque de bois sauta, et bientôt parurent, sous la longueur du couloir, plusieurs de ces larges couvercles qui bouchaient des fosses où l'on conservait le grain.
« Tu le vois, œil
de Baal, » dit le serviteur en tremblant. Ils n'ont pas encore tout pris, et elles sont profondes, chacune de 50 coudées et comble jusqu'au bord. Pendant ton voyage, j'en ai fait creuser dans les arsenaux, dans les jardins, partout. Ta maison est pleine de blé, comme ton cœur de sagesse. » Un sourire passa sur le visage d'Hamilcar.
« C'est bien, Abdalonim. »
Puis se penchant à son oreille.
« Tu en feras venir de l'Étrurie, du Brutium, d'où il te plaira, et à n'importe quel prix.
Entasse et garde. Il faut que je possède à moi seul tout le blé de Carthage. » Puis, quand ils furent à l'extrémité du couloir, Abdalonim, avec une des clés qui pendait à sa ceinture, ouvrit une grande chambre quadrangulaire, divisée au milieu par des piliers de cèdre.
des monnaies d'or, d'argent et d'airain, disposées sur des tables ou enfoncées dans des niches, montaient le long des quatre murs jusqu'aux lambourdes du toit. D'énormes couffes en peau d'hippopotame supportaient dans les coins des rangs entiers de sacs plus petits. Des tas de billions faisaient des monticules sur les dalles, et çà et là, quelques piles trop hautes, s'étant écroulées, avaient l'air d'une colonne en ruine. Les grandes pièces de Carthage, représentant Tanit, avec un cheval sous un palmier, se mêlaient à celles des colonies marquées d'un taureau, d'une étoile, d'un globe ou d'un croissant. Puis l'on voyait disposer, par sommes inégales, des pièces de toutes les valeurs, de toutes les dimensions, de tous les âges. Depuis les vieilles d'Assyrie, minces comme longues, jusqu'aux vieille du Latium, plus épaisse que la main, avec les boutons d'Égine, les tablettes de la Bactriane, les courtes tringles de l'ancienne Lacédémone. Plusieurs étaient couvertes de rouille, encrassées, verdies par l'eau ou noircies par le feu, ayant été prises dans des filets ou après les sièges parmi les décombres des villes. Le suffète eut bien vite supputé si les sommes présentes correspondaient aux gains et aux dommages qu'on venait de lui dire. Et il s'en allait lorsqu'il aperçut trois jarres d'airain complètement vides. Abdalonim détourna la tête en signe d'horreur, et Hamilcar, résigné, ne parla point. Ils traversèrent d'autres couloirs, d'autres salles, et arrivèrent enfin devant une porte où, pour la garder mieux, un homme était attaché par le ventre à une longue chaîne scellée contre le mur, coutume des Romains nouvellement introduite à Carthage. Sa barbe et ses ongles avaient démesurément poussé, et il se balançait de droite et de gauche avec l'oscillation continuelle des bêtes captives. Sitôt qu'il reconnut Hamilcar, il s'élança vers lui en criant « Grâce, œil de Baal, pitié, tue-moi, voilà 10 ans que je n'ai vu le soleil, au nom de ton père, grâce !» Hamilcar, sans lui répondre, frappa dans ses mains. Trois hommes parurent, et, tous les quatre à la fois en raidissant leurs bras, ils retirèrent de ses anneaux une barre énorme qui fermait la porte. Hamilcar prit un flambeau et disparut dans les ténèbres. C'était, croyait-on, l'endroit des sépultures de la famille. Mais on n'eût trouvé qu'un large puits. Il était creusé seulement pour dérouter les voleurs et ne cachait rien. Hamilcar passa auprès, puis, en se baissant, il fit tourner sur ses rouleaux une meule très lourde, et par cette ouverture, il entra dans un appartement bâti en forme de cône. Des écailles d'airain couvraient les murs. Au milieu, sur un piédestal de granit, s'élevait la statue d'un kabyre avec le nom d'Alétès, inventeur des mines dans la Selle Tibérie. Contre sa base, par terre, étaient disposés en croix de larges boucliers d'or et des vases d'argent monstrueux, à goulots fermés, d'une forme extravagante, qui ne pouvaient servir, car on avait coutume de fondre ainsi des quantités de métal pour que les dilapidations et même les déplacements fussent presque impossibles. Avec son flambeau, il alluma une lampe de mineur fixée au bonnet de l'idole. Des feux verts, jaunes, bleus, violets, couleur de vin, couleur de sang, tout à coup illuminèrent la salle. Elle était pleine de pierreries qui se trouvaient dans des calebasses d'or, accrochées comme des lampadaires aux lames d'airain, ou dans leurs blocs natifs, rangés au bas du mur. C'étaient des calaïs arrachés des montagnes à coups de fronde, des escarboucles formés par l'urine des lynx, des glossopètres tombés de la lune, des tianos, des diamants, des sandastrums, des béryls, avec les 3 espèces de rubis, les 4 espèces de saphirs et les 12 espèces d'émeraudes. Elles fulguraient, pareilles à des éclaboussures de lait, à des glaçons bleus, à de la poussière d'argent, et jetaient leurs lumières en nappes, en rayons, en étoiles. Les séronies engendrées par le tonnerre étincelaient près des chalcédoines qui guérissaient les poisons. Il y avait des topazes du mont Zabarka pour prévenir les terreurs, des opales de la Bactriane qui empêchent les avortements, et des cornes d'ammon
que l'on place sous les lits afin d'avoir des songes. Les feux des pierres et les flammes de la lampe se miraient dans les grands boucliers d'or. Hamilcar, debout, souriait, les bras croisés. Et il se délectait moins dans le spectacle que dans la conscience de ses richesses. Elles étaient inaccessibles, inépuisables, infinies. Ses aïeux, dormant sous ses pas, envoyaient à son cœur quelque chose de leur éternité. Il se sentait tout près des génies souterrains. C'était comme la joie d'un kabyre, et les grands rayons lumineux frappant son visage lui semblaient l'extrémité d'un invisible réseau qui, à travers les abîmes, l'attachait au centre du monde. Une idée le fit tressaillir, et s'étant placé derrière l'idole, il marcha droit vers le mur. Puis il examina parmi les tatouages de son bras une ligne horizontale avec deux autres perpendiculaires, ce qui exprimait, en chiffres cananéens, le nombre 13. Alors il compta jusqu'à la 13e des plaques d'airain, releva encore une fois sa large manche et, la main droite étendue, il lisait à une autre place de son bras d'autres lignes plus compliquées, tandis qu'il promenait ses doigts délicatement à la façon d'un joueur de lyre. Enfin, avec son pouce, il frappa 7 coups, et d'un seul bloc, toute une partie de la muraille tourna. Elle dissimulait une sorte de caveau, où étaient enfermées des choses mystérieuses, qui n'avaient pas de nom, et d'une incalculable valeur. Hamilcar descendit les 3 marches. Il prit, dans une cuve d'argent, une peau de lama flottant sur un liquide noir, puis il remonta. Abdalonim se remit alors à marcher devant lui. Il frappa les pavés avec sa haute canne garnie de sonnettes au pommeau, et devant chaque appartement, criait le nom d'Hamilcar, entouré de louanges et de bénédictions. Dans la galerie circulaire où aboutissaient tous les couloirs, on avait accumulé le long des murs des poutrelles d'algumine, des sacs de lozonia, des gâteaux en terre de Lemnos et des carapaces de tortue toutes pleines de perles. Le suffète, en passant, les effleurait avec sa robe, sans même regarder de gigantesques monceaux d'ambre, matière presque divine formée par les rayons du soleil. Un nuage de vapeur odorante s'échappa. « Pousse la porte !» Ils entrèrent. Des hommes nus pétrissaient des pâtes, broyaient des herbes, agitaient des charbons, versaient de l'huile dans des jarres, ouvraient et fermaient les petites cellules ovoïdes creusées tout autour de la muraille et si nombreuses que l'appartement ressemblait à l'intérieur d'une ruche. Du myrobalon, du bdellium, du safran et des violettes en débordaient. Partout étaient éparpillées des gommes, des poudres, des racines, des fioles de verre, des branches de filipendule, des pétales de rose, et l'on étouffait dans les senteurs, malgré les tourbillons de styrax qui grésillaient au milieu sur un trépied d'airain. Le chef des odeurs suaves, pâle et long comme un flambeau de cire, s'avança vers Hamilcar pour écraser dans ses mains un rouleau de métopion, tandis que deux autres lui frottait les talons avec des feuilles de baccaris. Il les repoussa. C'étaient des cyrénéens, demeures infâmes, mais que l'on considérait à cause de leurs secrets. Afin de montrer sa vigilance, le chef des odeurs offrit au suffète sur une cuillère d'électrum un peu de malobâtre à goûter. Puis avec une haleine, il perça 3 bézoards indiens. Le maître, qui savait les sacrifices, prit une corne pleine de baume et, l'ayant approché des charbons, il la pencha sur sa robe. Une tache brune y parut, c'était une fraude. Alors il considéra le chef des odeurs fixement et, sans rien dire,
lui jeta la corne de gazelle en plein visage. Si indigné qu'il fût des falsifications commises à son préjudice, en apercevant des paquets de nard qu'on emballait pour les pays d'outre-mer, il ordonna d'y mêler de l'antimoine, afin de le rendre plus lourd. Puis il demanda où se trouvaient 3 boîtes de psagas, destinées à son usage. Le chef des odeurs avoua qu'il n'en savait rien. Des soldats étaient venus avec des couteaux, en hurlant. Il leur avait ouvert les cases.
« Tu les crains donc plus que moi ?»
s'écria le suffète. Et à travers la fumée, ses prunelles comme des torches étincelaient sur le grand homme pâle qui commençait à comprendre.
« Abdalonim, avant le coucher du soleil, tu le feras passer par les verges. Déchire-le !»
Ce dommage, moindre que les autres, l'avait exaspéré, car malgré ses efforts pour les bannir de sa pensée, il retrouvait continuellement les barbares. Leur débordement se confondait avec la honte de sa fille, et il en voulait à toute la maison de la connaître et de ne pas la lui dire. Mais quelque chose le poussait à s'enfoncer dans son malheur. Et pris d'une rage d'inquisition, il visita sous les hangars, derrière la maison de commerce, les provisions de bitume, de bois, d'encres et de cordages, de miel et de cire, le magasin des étoffes, les réserves de nourriture, le chantier des marbres, le grenier du silphium. Il alla de l'autre côté des jardins, inspecter, dans leurs cabanes, les artisans domestiques dont on vendait les produits. Des tailleurs brodaient des manteaux, d'autres tressaient des filets, d'autres peignaient des coussins, découpaient des sandales, des ouvriers d'Égypte avec un coquillage, polissaient des papyrus, la navette des tisserands claquait, les enclumes des armuriers retentissaient.
Hamilcar leur dit « Battez des clèves, battez toujours, il m'en faudra !»
Et il tira de sa poitrine la peau d'antilope macérée dans les poisons, pour qu'on lui taillât une cuirasse plus solide que celle des reins et qui serait inattaquable au fer et à la flamme. Dès qu'il abordait les ouvriers, Abdalonim, afin de détourner sa colère, tâchait de l'irriter contre eux en dénigrant leurs ouvrages par des murmures. « Quelle besogne ! C'est une honte ! Vraiment, le maître est trop bon !» Hamilcar, sans l'écouter, s'éloignait. Il se ralentit, car de grands arbres calcinés d'un bout à l'autre, comme on en trouve dans les bois où les pasteurs ont campé, barraient les chemins, et les palissades étaient rompues. L'eau des rigoles se perdait. Des éclats de verre, des ossements de singes, apparaissaient au milieu des flaques bourbeuses. Quelques bribes d'étoffes, çà et là, pendaient aux buissons. Sous les citronniers, les fleurs pourries faisaient un fumier jaune. En effet, les serviteurs avaient tout abandonné, croyant que le maître ne reviendrait plus. À chaque pas, ils découvraient quelque désastre nouveau, une preuve encore de cette chose qu'il s'était interdit d'apprendre. Voilà maintenant qu'il souillait ses brodequins de pourpre en écrasant des immondices. Et il ne tenait pas ses hommes. Tous, devant lui au bout d'une catapulte, pour les faire voler en éclats. Il se sentait humilié de les avoir défendus. C'était une duperie, une trahison. Et comme il ne pouvait se venger ni des soldats, ni des anciens, ni de Salammbô, ni de personne, et que sa colère cherchait quelqu'un, il condamna aux mines, d'un seul coup, tous les esclaves du jardin. Abdalonim frissonnait chaque fois qu'il le voyait se rapprocher des parcs. Mais Hamilcar prit le sentier du moulin, d'où l'on entendait sortir une mélopée lugubre. Au milieu de la poussière, les lourdes meules tournaient, c'est-à-dire 2 cônes de porphyre superposés, et dont le plus haut, portant un entonnoir, virait sur le second à l'aide de fortes barres.
avec leurs poitrines et leurs bras, des hommes poussaient, tandis que d'autres, attelés, tiraient. Le frottement de la bricole avait formé autour de leurs aisselles des croûtes purulentes, comme on en voit au garrot des ânes, et le haillon noir et flasque qui couvrait à peine leurs reins et pendait par le bout battait sur leurs jarrets comme une longue queue. Leurs yeux étaient rouges, les fers de leurs pieds sonnaient, toute leur poitrine haletait d'accord. Ils avaient sur la bouche, fixée par deux chaînettes de bronze, une muselière, pour qu'il leur fût impossible de manger la farine, et des cantelets sans doigts enfermaient leurs mains pour les empêcher d'en prendre. À l'entrée du maître, les barres de bois craquèrent plus fort. Le grain, en se broyant, grinçait. Plusieurs tombèrent sur les genoux, les autres, continuant, passaient par-dessus. Il demanda Gidenem, le gouverneur des esclaves, et ce personnage parut, étalant sa dignité dans la richesse de son costume, car sa tunique, fendue sur les côtés, était de pourpre fine. De lourds anneaux tiraient ses oreilles, et, pour joindre les bandes d'étoffe qui enveloppaient ses jambes, un lacet d'or, comme un serpent autour d'un arbre, montait de ses chevilles à ses hanches. Il tenait dans ses doigts, tout chargé de bagues, un collier en grains de gagates pour reconnaître les hommes sujets au mal sacré. Hamilcar lui fit signe de détacher les muselières. Alors tous, avec des cris de bêtes affamées, se ruèrent sur la farine qu'ils dévoraient en s'enfonçant le visage dans les tas.
« Tu les exténues !» dit le suffète.
Gidenem répondit qu'il fallait cela pour les dompter.
« Ce n'était guère la peine de t'envoyer à Syracuse dans l'école des esclaves. Fais venir les autres !»
Et les cuisiniers, les sommeliers, les palefreniers, les coureurs, les porteurs de litières, les hommes des étuves et les femmes avec leurs enfants, tous se rangèrent dans le jardin sur une seule ligne depuis la maison de commerce jusqu'au parc des bêtes fauves. Ils retenaient leur haleine. Un silence énorme emplissait Mégara. Le soleil s'allongeait sur la lagune, en bas des catacombes. Des pans piaulaient. Hamilcar, pas à pas, marchait.
« Qu'ai-je à faire de ces vieux ? » dit-il. « Vends-les ! C'est trop de Gaulois, ils sont ivrognes. Et trop de Crétois, ils sont menteurs. Achète-moi des Cappadociens, des Asiatiques et des Nègres !»
Il s'étonna du petit nombre des enfants. « Chaque année, Gidenem, la maison doit avoir des naissances. Tu laisseras toutes les nuits les cases ouvertes pour qu'ils se mêlent en liberté. » Il se fit montrer ensuite les voleurs, les paresseux, les mutins. Il distribuait des châtiments avec des reproches à Gidenem. Et Gidenem, comme un taureau, baissait son front bas où s'entrecroisaient deux larges sourcils.
« Tiens, œil de Baal, » dit-il en désignant un Libyen robuste.
« En voilà un que l'on a surpris la corde au cou. »«
Ah, tu veux mourir !» fit dédaigneusement le suffète.
Et l'esclave d'un ton intrépide.
« Oui !»
Alors, sans se soucier de l'exemple ni du dommage pécuniaire, Hamilcar dit au valet.
« Emportez-le !»
Peut-être y avait-il dans sa pensée l'intention d'un sacrifice. C'était un malheur qu'il s'infligeait avant d'en prévenir de plus terrible. Gidenem avait caché les mutilés derrière les autres. Hamilcar les aperçut.
« Qui t'a coupé le bras à toi ?»«
Les soldats, œil de Baal. » Puis, à un samnite qui chancelait comme un héron blessé.
« Et toi, qui t'a fait cela ?»
C'était le gouverneur, en lui cassant la jambe avec une barre de fer.
cette atrocité imbécile indigna le suffète, et, arrachant des mains de Jidenem son collier de gagate,
« Malédiction aux chiens qui blessent le troupeau ! Estropié des esclaves, bonté de Tanit ! Mais tu ruines ton maître ! Qu'on l'étouffe dans le fumier ! Et ceux qui manquent, où sont-ils ? Les as-tu assassinés avec les soldats ?»
Sa figure était si terrible que toutes les femmes s'enfuirent. Les esclaves, se reculant, faisaient un grand cercle autour d'eux. Jidenem baisait frénétiquement ses sandales. Hamilcar, debout, restait les bras levés sur lui. Mais, l'intelligence lucide comme au plus fort des batailles, il se rappelait mille choses odieuses, des ignominies dont il s'était détourné. Et à la lueur de sa colère, comme une fulguration d'un orage, il revoyait d'un seul coup tous ses désastres à la fois. Les gouverneurs des campagnes avaient fui par terreur des soldats, par connivence peut-être, tous le trompaient. Depuis trop longtemps, il se contenait.
« Qu'on les amène !» cria-t-il, « et marquez-les au front avec des fers rouges comme des lâches !»
Alors, on apporta et l'on répondit au milieu des jardins des entraves, des carcans, des couteaux, des chaînes pour les condamnés aux mines, des cipes qui serraient les jambes, des numellas qui enfermaient les épaules et des scorpions, fouets à triple lanière terminés par des griffes en airain. Tous furent placés la face vers le soleil, du côté de Moloch dévorateur, étendus par terre sur le ventre ou sur le dos, et les condamnés à la flagellation, debout contre les arbres, avec deux hommes auprès d'eux, un qui comptait les coups et un autre qui frappait. Ils frappaient à deux bras. Les lanières en sifflant faisaient voler l'écorce des platanes, le sang s'éparpillait en pluie dans les feuillages, et des masses rouges se tordaient au pied des arbres en hurlant. Ceux que l'on ferrait s'arrachaient le visage avec les ongles. On entendait les vis de bois craquer, des heurts sourds retentissaient, parfois un cri aigu tout à coup traversait l'air. Du côté des cuisines, entre des vêtements en lambeaux et des chevelures abattues, des hommes, avec des éventails, avivaient des charbons, et une odeur de chair qui brûle passait. Les flagellés défaillants, mais retenus par les liens de leurs bras, roulaient leurs têtes sur leurs épaules en fermant les yeux. Les autres qui regardaient se mirent à crier d'épouvante, et les lions, se rappelant peut-être le festin, s'allongeait en bâillant contre le bord des fosses. Alors on vit Salammbô sur la plateforme de sa terrasse. Elle la parcourait rapidement de droite et de gauche, tout effarée. Hamilcar l'aperçut. Il lui sembla qu'elle levait les bras de son côté pour demander grâce. Avec un geste d'horreur, il s'enfonça dans le parc des éléphants. Ces animaux faisaient l'orgueil des grandes maisons puniques. Ils avaient porté les aïeux, triomphé dans les guerres, et on les vénérait comme favoris du soleil. Ceux de Mégara étaient les plus forts de Carthage. Hamilcar, avant de partir, avait exigé d'Abdalonim le serment qu'il les surveillerait. Mais ils étaient morts de leur mutilation. Et trois seulement restaient, couchés au milieu de la cour, sur la poussière, devant les débris de leur mangeoire. Ils le reconnurent et vinrent à lui. L'un avait les oreilles horriblement fendues, l'autre, au genou, une large plaie, et le troisième la trompe coupée. Cependant, il le regardait d'un air triste, comme des personnes raisonnables, et celui qui n'avait plus de trompe, en baissant sa tête énorme et pliant les jarrets, tâchait de le flatter doucement avec l'extrémité hideuse de son moignon. À cette caresse de l'animal, deux larmes lui jaillirent des yeux.
il bondit sur Abdalonim.
« Ah, misérable, la croix, la croix !»
Abdalonim, s'évanouissant, tomba par terre à la renverse. Derrière les fabriques de pourpre, dont les lentes fumées bleues montaient dans le ciel, un aboiement de chacal retentit. Hamilcar s'arrêta. La pensée de son fils, comme l'attouchement d'un dieu, l'avait tout à coup calmé. C'était un prolongement de sa force, une continuation indéfinie de sa personne qu'il entrevoyait, et les esclaves ne comprenaient pas d'où lui était venu cet apaisement. En se dirigeant vers les fabriques de pourpre, il passa devant l'ergastule, longue maison de pierre noire bâtie dans une fosse carrée avec un petit chemin tout autour et quatre escaliers aux angles. Pour achever son signal, Ibibal, sans doute, attendait la nuit. Rien ne presse encore, songeait Hamilcar, et il descendit dans la prison. Quelques-uns lui crièrent « Retourne !» Les plus hardis le suivirent. La porte ouverte battait au vent. Le crépuscule entrait par les meurtrières étroites, et l'on distinguait dans l'intérieur des chaînes brisées pendant au mur. Voilà tout ce qui restait des captifs de guerre. Alors Hamilcar pâlit extraordinairement, et ceux qui étaient penchés en dehors de la fosse le virent, qui s'appuyait d'une main contre le mur pour ne pas tomber. Mais le chacal, trois fois de suite, cria. Hamilcar releva la tête. Il ne proféra pas une parole. Il ne fit pas un geste. Puis, quand le soleil fut complètement couché, il disparut derrière la haie de Nopale, et le soir, à l'assemblée des riches, dans le temple d'Eshmoun, il dit en entrant.
Lumière des Baalim, j'accepte le commandement des forces puniques contre l'armée des barbares.
Fin du chapitre 7.